phénoménologue.
Quelquefois, on trouve un peu très très chouette, mais on n'a pas l'habitude, quoi. Voilà.
Alors, en fait, dans le mystère de l'Assomption, moi, je vais essayer de vous dire simplement ce que vous devez retenir, c'est-à-dire ce que nous sommes obligés de croire. Le mystère de l'Assomption a été défini par le pape Pie XII en 1950 comme dogme qui oblige à la foi catholique. Celui qui croit et à la foi catholique doit croire également que Marie a été emportée au dernier instant de sa vie, non seulement avec son âme, mais aussi avec son corps, dans la résurrection, dans la vision béatifique, dans l'instant même de sa mort. Celui qui refuse de croire à ce qui est ainsi défini par l'Église, termine le dogme, a perdu totalement la foi catholique. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très important. Vous allez me dire, avant 1950, ça n'existait pas. Avant 1950, ça existait. Et c'est là que mon introduction, si vous voulez, avant 1950, ça n'était pas défini. Pourquoi est-ce que le pape définit un dogme? Un dogme n'est défini par Saint-Pierre que par Pierre et par les successeurs des apôtres qu'à plusieurs conditions. Il y a trois conditions pour définir un dogme. Première condition, il faut que ce dogme, c'est-à-dire cet article de foi, ait été enseigné par le Christ lui-même, de sa propre bouche, qu'il appartienne à la tradition apostolique, et par conséquent, qu'il ait un fondement dans l'Écriture. S'il n'y a pas de fondement dans l'Écriture, la définition du dogme est impossible. C'est la première condition. La seconde condition, il faut que ça ait été cru par tous les chrétiens de toutes les générations depuis la résurrection. Et il faut des preuves. Troisième condition, il faut, elle est double, il faut que ce soit évidemment encore cru et aimé par le peuple de Dieu tout entier, et en même temps que le pape considère par son discernement, et c'est là que joue son infaillibilité. L'infaillibilité ne joue pas sur la définition, l'infaillibilité joue sur l'heure de la définition. Et le Saint-Père ne définit un dogme que quand il sent qu'il va être attaqué. Le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge n'a jamais été attaqué. Et donc, jamais il n'a été nécessaire de le définir. Les premiers dogmes de l'Église, par exemple, le fait que il y ait une trinité en trois hypostases et un seul Dieu n'a été proclamé par les tout premiers conciles de l'Église vers 320 que parce que c'était attaqué par une nouvelle hérésie qui s'appelait le sabellianisme. Le mystère de l'union hypostatique par lequel Jésus est Dieu et homme dans une seule personne et que la nature humaine du Christ existe plénièrement, la nature divine de manière plénière aussi, mais pourtant que le Christ n'a pas de personne humaine, est défini également à la suite de l'hérésie d'Arius. Rappelez-vous qu'Arius nie cela. C'est très grave du reste, et n'oublions pas non plus que du temps d'Arius, 90% des évêques catholiques avaient abandonné leur foi dans l'incarnation, du moins dans ce que l'incarnation signifie, à savoir qu'il y a une seule personne et deux natures. 90%, heureusement qu'il restait le pape qui avait gardé la foi, et évidemment, en grand danger, il a défini comme étant de foi absolue le mystère de l'union hypostatique. Le mystère du concile d'Éphèse, de la Mère de Dieu, immédiatement après, a été remis en cause. On a dit d'accord, Elle est la mère de Jésus, homme, elle est la mère de la nature humaine, mais pas la mère de la personne, du Christ. Non, le Concile d'Éphèse dit, elle est la mère de la personne, du Christ. Elle est donc bien, or il se trouve que la personne c'est le Verbe. Enfin, extraordinaire. Extraordinaire. Justement, comme le diable n'avait pas réussi à ébranler l'église de Rome, en disant, mais non, la personne du Christ, c'est une personne humaine plus une personne divine, n'avait pas réussi, il a dit, on va faire nier le fait que Marie est mère de Dieu. Comme ça, par voie de conséquence, elle est mère de la personne, ben, elle n'est pas mère du Verbe, ben, du moins, elle est mère d'une personne humaine. Et évidemment, en 1856, je crois, définition du dogme de l'Immaculée Conception. Il y a eu une apparition en France en 1948 ou 9, je crois, après la guerre, Notre-Dame de l'Hospice, du côté de Montauban. La Vierge est apparue à tout un village, notamment un petit garçon qui s'appelle le petit Gilles. C'est une petite anecdote parce que je connais, tu vois. Et petit Gilles était protégé par son voisin qui s'appelait Adrien. Adrien était communiste, un communiste convaincu. Et il avait une dame, elle avait frappé à sa porte un jour en lui disant, Adrien, oh mais que tu es belle ma petite. Ah ouais, répondu le type. Elle dit, qu'est-ce que tu... J'ai un service à te demander. Alors, avec le jeu que tu as, il n'y a pas de problème. Eh bien, demain, il y a la procession du 15 août. Je voudrais que tu portes ma bannière. Et elle a disparu. Ça, c'est Adrien. Adrien était assez vieux. Alors, il était obligé de porter la bannière. Et c'était le voisin de Petit Gilles, qui avait 4 ou 5 ans. Et la Vierge, à Notre-Dame de l'Espire, avait chargé le Petit Gilles d'aller voir Monsieur le Pape pour lui dire, c'est plus la peine de faire trop de travail avec les... livre avec les recherches, c'est sûr, c'est le moment de dire qu'elle est au ciel avec son corps et avec son âme. Alors Adrien a pris le petit Gilles, il est arrivé à Rome, il a traversé la place Saint-Pierre, il a été à droite, vous voyez, là où il y a les gardes suisses, et il a dit, nous voulons voir monsieur le pape, oui, avec son petit Gilles ici, là, nous voulons voir monsieur le pape. Alors, les gardes suisses commençaient à prendre leurs arquebuses, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et au moment où ils allaient les foutre dehors, coup de téléphone du pape Pie XII, qui était à 3 étages au-dessus, et qui dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me demande en ce moment? Le pape Pie XII était un grand mystique. Hein? Oui, très simple. Peut-être les monter immédiatement à ma bibliothèque. Alors Adrien est monté avec le petit Gilles. Le petit Gilles a dit, ben voilà, la Sainte Vierge dit que c'est plus le moment de travailler les livres, la recherche, tout ça, c'est le moment de dire, il ne faut pas continuer à travailler, il faut le dire. Alors il a sonné tous les cardinaux de la curie romaine qui avaient fait venir dans la grande salle de la bibliothèque, ils sont bien assis. Il a dit, maintenant tu vas répéter à tous les cardinaux. Alors Gilles a dit, ben voilà, c'est pas la peine de continuer les recherches, le travail, tout ça, parce que c'est le moment maintenant de dire que Marie, elle y est, c'est vrai, avec son corps et avec son âme. Alors le petit Gilles est passé dans les bras de chacun des cardinaux. À un moment, il est passé dans les bras d'un cardinal français, soit, dont je ne citerai pas le nom. Il a dit, est-ce que tu peux me répéter ce que tu as dit à Sainte Vierge? Alors le petit Gilles a dit, mais il est bête celui-là, je viens de le dire. Enfin bref, toujours est-il que un mois après, le pape proclamait le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, 1950. C'est le dernier dogme qui était proclamé. Les trois derniers dogmes, rappelez-vous toujours, l'Immaculée Conception, l'infaillibilité pontificale, et le mystère de l'Assomption. Très bien. Alors, dans le mystère de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre une première chose, c'est le mystère de la Dormition. Une seconde, celui de l'Assomption, et une troisième, celui du couronnement de Marie au ciel. C'est trois choses totalement différentes qui se résument et qui se sont réalisées au même instant. Le mystère de la Dormition, c'est quoi? C'est le fait que Marie, l'Immaculée, dans le dernier instant de sa vie terrestre, était encore dans la foi. Au moment de son Immaculée Conception, elle était pleine de grâce. Pleine de grâce. Plénitude de grâce. Premier instant de sa conception. Mais cette plénitude de grâce n'a pas cessé d'augmenter, de s'intensifier. Elle n'allait s'échapper aucun moment de sa vie sans que la grâce sanctifiante augmente dans son âme. Donc elle n'a pas laissé échapper un seul moment sans faire des actes de foi, d'espérance, d'adoration en esprit, en vérité et de charité, qui sont les quatre moyens pour faire augmenter la grâce dans notre âme. Et dans la dernière partie de sa vie, par les sacrements, qui est un autre moyen de laisser passer, de faire que la grâce s'intensifie dans notre âme. De sorte que sa charité augmentant, chez Jésus, la charité n'a jamais augmenté. Elle était infinie dès le premier instant. Dans son cœur humain, la charité du cœur de Jésus, l'amour du cœur de Jésus, était infini. Pour Marie, c'est une plénitude de grâce. La charité de Marie n'était pas infinie. Elle était finie. Mais aux confins, j'allais dire, de la divinité. Et le mystère de la Dormition signifie tout simplement que le dernier acte de foi de Marie est tellement fort qu'il crève le voile de la vision béatifique. Elle déchire par cet acte de foi si puissant qu'il atteint tous les confins de la Trinité, tous les confins de l'univers, tout le fond de tous les cœurs de tous les hommes qui existeront et qui jamais existeront. Dans un seul acte de foi, de sorte qu'elle voit, elle rentre dans la vision béatifique. Du côté de la charité et de l'amour, elle atteint un degré de charité égal, complémentaire, au sens où la femme est complément de l'homme du point de vue du cœur, complémentaire à celui du Christ. De sorte que sa charité est la même dans le dernier instant de sa vie que la charité du Christ pendant tous les moments de sa vie.
Et puisque chez le Christ c'est infini, ça veut dire qu'elle
a... Ça veut dire que la charité de Christ est infinie de depuis le premier instant jusqu'à sa mort.
Comment peut-il y avoir complémentarité avec elle?
Alors, il y a complémentarité à le dernier instant de la vie de Marie, mais pas avant. C'est-à-dire que... Alors il y a complémentarité parce que l'amour infini du Verbe qui spire l'amour du Saint-Esprit a saisi un cœur d'homme, un cœur masculin. Et quand il s'empare d'un cœur masculin, il fait que ce cœur masculin aime à l'infini. Ça ne s'est réalisé qu'une fois, c'est avec le cœur de Jésus. Et le cœur de la femme aime dans un exercice, un mode différent de celui de l'homme. Et c'est pour ça qu'il se réalise selon une modalité de complémentarité. C'est ce qu'on appelle, je dirais, la co-rédemption et l'ascension. Ça, c'est le premier mystère. Le premier mystère du 15 août, c'est ça, c'est que le fait que Marie a été tellement loin dans l'intensification de son amour, de sa fidélité de chaque moment que son amour a atteint. Son amour a atteint le même degré que celui de Jésus. Et, d'une certaine manière, elle s'est endormie de cette manière-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la Dormition. C'est que elle s'est échappée du temps. Et elle a atteint l'éternité, et pourtant, j'allais dire, son corps d'une certaine manière, est encore là. Deuxième aspect, le mystère de l'Assomption, c'est qu'au même instant, exactement au même instant, il y a eu le mystère de l'Assomption, ce qui était prophétisé dans le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. L'homme quittera son père, je vous rappelle, le Verbe quitte son père pour s'incarner. Et sa mère, le Christ, quitte sa mère à la croix et à l'ascension pour s'asseoir à la droite du Père, et il laisse sa mère toute seule. Il quitte sa mère, c'est plus sa mère, ça devient son épouse, femme. C'est plus maman, ma petite maman, ma mère, qui sont ma mère, mes frères, c'est femme. Il quitte sa mère, il s'attachera à sa femme. Transverbération du cœur immaculé de Marie. Au moment de la croix, le Verbe de Dieu, le glaive, transperce l'âme.
Je vais plus lentement parce qu'il paraît que c'est trop difficile à comprendre.
Donc, au moment de la croix, transverbération du cœur immaculé de Marie. Le Verbe, ça veut dire que le Verbe de Dieu, Jésus, le glaive, la parole de Dieu est un glaive de feu. La parole de Dieu est plus pure que l'or. Transperce l'âme. Et le cœur immaculé de Marie de part en part. C'est pour ça que sur la médaille miraculeuse, vous avez le glaive. Ça veut dire transverbération du cœur immaculé de Marie. C'est le Verbe de Dieu qui saisit physiquement le cœur immaculé de Marie. De sorte qu'à partir de ce moment-là, c'est le cœur de Jésus, du Verbe, qui bat dans sa poitrine. De sorte qu'on peut dire que le cœur de Jésus n'a jamais cessé de battre. Les deux cœurs n'ont fait qu'une seule chair. Donc, il s'attachera à sa femme, c'est ça. Quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Ça a commencé par la transverbération du cœur, certainement de manière encore plus puissante au moment du coup de lance, bien sûr. C'est Saint Jean qui le dit, que c'est la Pentecôte pour Marie. C'est au moment du coup de lance. Il s'attachera à sa femme, et puis après les Pentecôtes suivantes, bien sûr. Et les deux ne feront qu'une seule chair, c'est le mystère de l'Assomption, tout simplement. Or, rappelez-vous que, au moment de la résurrection et au moment de notre propre résurrection, au moment de la résurrection du corps de Jésus, le corps de Jésus était dans son linceul, dans le fameux sphère de Turin, parfaitement authentique, n'est-ce pas? Parfaitement authentique, scientifiquement prouvé. Absolument. L'image de la bête animée qui parle a dit différemment, mais ça c'est autre chose. Mais parfaitement authentique. Et donc il était sur cette pierre tombale sur laquelle vous avez été à Jérusalem, dans le Saint-Sépulcre. Le corps de Jésus était là, dans ce lieu-là. Et au moment de la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le corps de Jésus était physiquement, partout où il y a de la matière, physiquement, le corps de Jésus est dans l'omniprésence. À partir du moment de la résurrection, le corps de Jésus s'empare de tout le cosmos et il est présent dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, simultanément et dans tous les lieux, simultanément, physiquement, tel qu'il est, corporellement, de manière glorieuse, partout où Dieu est présent. Donc quand je touche Bernard, je touche la résurrection du Christ. Et c'est sûr, quand je pense à Napoléon, je plonge dans l'histoire, je touche la résurrection du Christ. La résurrection, c'est comme un espèce de laser qui traverse le temps et l'espace. Et qui fait que le corps de Jésus est partout physiquement présent. le sorte au moment de l'Assomption, qu'est-ce qui se passe? Les deux ne font qu'une seule chair, c'est Jésus qui se précipite sur le corps, l'âme, le cœur immaculé de Marie, de l'intérieur de son cœur immaculé précisément, pour s'emparer, j'allais dire, de tout le corps de Marie, et le corps de Marie est partout présent, là où est le corps de Jésus, ils ne font qu'une seule chair, glorieux. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'Assomption. À partir de ce moment-là, évidemment, l'Immaculée est dans la vision béatifique. Tout ce que voit Jésus, elle le voit. Et dans son intelligence, dans notre résurrection, ce sera exactement pareil. Hein. Ça se passera très vite, notre résurrection. Dans un seul instant, de manière extraordinaire. Et à chaque fois que nous nourrissons du corps glorieux du Christ, nous vivons déjà de la résurrection. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, à chaque fois que vous faites un acte de foi, vous vivant déjà de la résurrection. C'est-à-dire, je fais un acte de foi. Rappelez-vous les moments de l'acte de foi. C'est que je considère Jésus là où il est, tel qu'il est. Je le touche. Deuxième mouvement, je pénètre en lui, dans son intimité la plus profonde, et j'essaye de vivre ce qu'il vit là où il est, comme il est. Et troisièmement, nous vivons tous les deux une seule âme et un seul corps, et je suis assimilé, transformé en Christ. C'est pour ça que je suis chrétien. Or, le Christ est dans la résurrection, il est partout. Et il est face au Père. Et il communique l'Esprit Saint. Et il crée le monde. Dans les origines, j'assiste à la création du monde. À chaque fois, je fais un acte de foi. Il faut y penser, un acte de foi, c'est extraordinaire. Un acte de foi, c'est un acte par lequel Jésus et moi, c'est ce que j'aime dire souvent, l'acte de foi, c'est un... L'acte de foi, c'est la fusée du Saint-Esprit. Le coup de lance, vous précipitez, vous crevez tous les plafonds des cieux et vous rentrez au ciel, vous rentrez dans le corps du Christ qui est dans la gloire et vous vivez tout ce qui est. Tandis que l'acte d'espérance, c'est pas ça. C'est la douche, c'est les torrents. Torrents d'amour et de grâce. L'acte d'espérance, c'est... J'ai une confiance absolue, Seigneur, qu'en ce moment, tu me donnes ta grâce par torrent. Au moment où vous dites, j'en ai marre, je suis foutu, j'ai en enfer, j'ai plus la foi, j'ai vu trop de péchés, je suis trop con, je sais pas prier. C'est à ce moment-là que vous faites un acte d'espérance en disant, mais Seigneur, j'ai une confiance totale qu'en ce moment, c'est des trésors de grâce infinis qui jaillissent en surabondance dans mon âme. J'ai une confiance absolue qu'en ce moment, ta grâce déborde, jaillit à l'infini. Transformé en chute du Niagara. C'est l'acte d'espérance. Donc l'acte de foi, comprenez bien. Le troisième aspect du mystère de l'Assomption, auquel nous croyons, c'est le fait que Marie a été couronnée reine. Par le Père, par son Verbe et par l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi qu'elle a été faite reine? C'est tout à fait autre chose, hein? Encore autre chose totalement différente. Vous allez voir à quel point c'est différent. C'est quand même curieux, hein, du reste. Hein? Marie est vraiment la reine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, la très sainte Trinité a voulu que l'Immaculée soit la couronne de la très sainte Trinité. La deuxième aspect, c'est qu'il a voulu que Marie soit la reine de tous les saints, la reine de tous les anges, la reine de tous les séraphins, la reine de toute la gloire de Dieu dans la création. Dans la création récapitulée. Le troisième aspect, Marie reine, c'est que Dieu a voulu
que Marie, donc, dans son deuxième aspect, soit vénérée comme reine au ciel par tout le monde, y compris par eux trois, eh bien, il a voulu donc que sur la terre, Marie soit considérée avec autant de vénération qu'elle est vénérée au ciel. Donc il a voulu vraiment que chaque parcelle d'atome vénère Marie comme reine. Chaque brin d'herbe vénère Marie comme reine. Chaque lapin, chaque puce vénère Marie comme reine. Et chaque être humain vénère Marie comme reine. C'est normal. On ne voit pas pourquoi les anges, les séraphins, c'est quand même inouï les séraphins qui vénèrent Marie comme leur reine, alors c'est une toute petite bonne femme avec de la terre. Tandis que vénère Marie comme reine. Et donc Dieu veut explicitement que Marie soit vénérée comme la reine immaculée de l'univers sur la terre aussi. Et le quatrième aspect, qui est, j'allais dire, le plus proche de nous, je dirais, c'est que si Marie est reine, nous devons tout lui donner. Nous ne sommes plus que sa propriété, ça exige la consécration, la fameuse consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par lequel nous donnons tout à Marie, sans exception, c'est elle qui s'occupe de tout. On laisse tomber toutes nos préoccupations, on laisse tomber tous nos problèmes, tous nos projets, tous nos a priori, toutes nos intolérances, toutes les barrières, on ne s'occupe plus, c'est Marie qui s'occupe de tout. Vous laissez tomber vos baskets, c'est sans trop lourd, Marie s'occupe de tout. Donc c'est elle qui est la reine, qui vous gouverne. Donc si elle a mis à côté de vous quelqu'un, dans le cas, c'est elle qui s'est arrangée pour que ce soit justement lui ou elle. C'est elle qui a tout fait. Si elle n'a choisi Bernard, c'est elle qui s'est démerdée pour ce Bernard. C'est elle. Elle est reine. Elle gouverne. Merci Marie. Alors, ouais. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui gouverne tout. Vous voyez, c'est le point de vue du gouvernement. Et donc le cinquième aspect, parce que Marie est toujours sainte, le cinquième aspect, c'est que c'est elle qui décide de l'heure. Le fameux mystère de l'Apocalypse, c'est elle qui décide de l'heure. Vous le voyez déjà à Cana. À Cana, Marie décide de l'heure pour ce qui est premier miracle, à partir du moment où Marie décide de l'heure, Jésus s'exécute et commence sa mission apostolique. C'est Marie qui décide de l'heure de la crucifixion. C'est elle qui a livré son fils à la passion, comme c'est dit explicitement par tous les docteurs de l'Église, sans exception. Ce n'est pas du tout nouveau. Pardon ? Je n'ai pas compris. Parce que c'est elle qui donne son fils pour nous sauver. Au moment du fiat, elle a accepté l'incarnation et elle était pleinement consciente que c'était pour le salut des pécheurs. Elle savait qu'elle mettait au monde le serviteur souffrant et elle savait également que c'était à elle de décider de l'heure par son fiat de l'incarnation. C'est pour ça que l'Écriture dit explicitement que l'incarnation n'a pas eu lieu au moment où l'ange est apparu, mais seulement quand elle a bien voulu dire le fiat. C'est elle qui a décidé de l'heure aussi pour le déclenchement de la mission apostolique de Jésus. La charité bien ordonnée commence par soi-même, elle l'a gardée d'abord 30 ans. Il ne faut pas d'abord aimer son prochain, d'abord, non. La charité bien ordonnée, c'est d'abord Dieu, son Jésus, et puis après nous, moi d'abord. Avant les autres. D'abord Marie et moi, les autres passent très loin derrière. C'est pour ça que quelquefois on peut voir des gens qui s'entêtent. C'est par charité, tout simplement. Et apparemment la vérité aussi. Et donc vous voyez, la décide de l'heure. On se demande, là je m'excuse, je suis désolé d'être enregistré, j'aurais préféré pas être enregistré pour ce que je vais dire, mais on sait bien. À usage interne, très bien, à usage interne. Je peux l'enregistrer, mais c'est à usage interne. Elle décide de l'heure de la résurrection. C'est pas elle qui a ressuscité Jésus, vous vous rendez bien. C'est Jésus qui s'est ressuscité lui-même. Mais c'est elle qui décide de l'heure de la résurrection. Ça, toute la théologie est tout à fait d'accord là-dessus. Savoir que c'est Marie qui décide de l'heure, du moment. C'est elle qui est médiatrice. Ce que dit le Concile, hein, remarquez bien, hein, elle est médiatrice dans l'ordre de toutes les grâces. Toutes les grâces. Médiatrice de toutes les grâces. Ça veut dire quoi, de toutes les grâces? La résurrection, elle a quand même une partie qui s'est opérée dans le temps. Toutes les grâces, c'est tout ce qui s'opère dans le temps. La résurrection s'est opérée dans le temps. Mais c'est surtout l'éternité qui fait la résurrection. Mais ça s'est quand même opéré dans le temps. Et donc pour ce qui est de la médiation par rapport au temps, c'est-à-dire l'heure, ça vient de Marie, forcément. Ça ne peut pas être autrement. Elle est médiatrice dans l'ordre aussi de la décision, de l'heure de la parousie, et enfin de l'heure du retour du Christ. Ce qu'on voit de manière très très explicite dans le livre de l'Apocalypse. Elle est la reine du temps, et la reine de la fin des temps, la reine de la plénitude du temps. Dans l'Apocalypse, vous lirez en disant, à chaque fois que vous verrez l'ange qui vole au zénith, vous voyez donc la messagère, l'angelos, le messager, celui qui apporte le message définitif au zénith. À chaque fois que vous verrez l'ange dans l'Apocalypse, c'est Marie. C'est une clé, hein. Sinon vous ne comprenez rien à l'Apocalypse. Strictement rien. Donc vous voyez, elle est reine. Reine immaculée de l'univers. C'est très très important. C'est très très important pour nous de comprendre parce que, à ce moment-là, on sait que le mystère de Marie dans sa royauté déborde, j'allais dire, le mystère de l'Église. Vous voyez ce que j'ai essayé de vous dire de manière un peu osée hier, en disant on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Mais il faut baptiser, vous voyez, la manière chrétienne de le dire, c'est en disant Marie est reine. Elle est la messagère de l'Apocalypse, le grand messager de l'Apocalypse, celle qui déclenche les sept coupes. Les sept sceaux, les sept tonnerres. Elle est la reine des apôtres, sixième aspect. 12 apôtres, ça 13, c'est la reine des apôtres. Récapitule tous les apôtres. Et elle est la reine des apôtres. C'est le sens qu'elle a enfanté les apôtres d'une part, et aussi dans les derniers temps, elle est l'apôtre par excellence. L'apôtre qui va annoncer le mystère de Jésus lorsque les apôtres sont muselés, martyrisés, persécutés, terrorisés. Terrorisés. Ou en pleine lâcheté, c'est ça, terrorisés, c'est pareil. Hein. Ou lâche, c'est elle qui va suppléer à l'enseignement du kérigme apostolique et qui va de manière spéciale s'adresser à des gens qu'elle choisit pour continuer et dit proclame en mon nom ceci et cela, ce qu'elle dit à Bernadette, ce qu'elle dit à Lucie de Fatima, ce qu'elle a dit à Maximilien. Et elle-même le fait aussi, comme dans certains endroits, par exemple à Medjugorje. Dans beaucoup d'endroits, vous voyez, Marie, reine des apôtres, 13. Et le septième aspect, ce serait quoi? Je ne sais pas si vous devinez. Marie, reine
Marie, la reine de notre pèlerinage, la reine du car, la reine de notre car. C'est elle qui conduit et tient le volant bien plus, enfin avec, mais bien plus que Bernard. Elle le maintient éveillé, elle nous conduit. Elle distribue à chaque instant, comme il convient, toutes les grâces. Extraordinaire, la reine de notre pèlerinage, la reine du pape. Qui nous a appris tout ça, qui nous a touché, la reine. Très bien, en tout cas, rappelez-vous toujours les trois aspects du mystère de Marie dans l'Assomption. La dormition, pour nous rappeler qu'il faut toujours que notre charité augmente, que notre foi augmente. Pour ça, il faut faire des actes de foi, d'espérance et de charité. L'Assomption et Marie Reine. On va s'arrêter bientôt pour pouvoir manger.
N'oubliez pas. Manger et puis prendre
le... Oh, ma...